L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Bonjour Bernard Vacherot, vous allez
Salut,
bien?
Salut, bonjour à vous autres et à toi aussi mon cher.
La semaine dernière, vous nous avez terminé l'émission, je ne savais plus où on était là. Arrivée des serpents, des dragons,
oui,
on n'était pas dans le paradis perdu, dans l'Éden d'Adam et Ève, du tout encore.
Ah ben il y a un lien, oui, avec le serpent par exemple dans l'arbre, oui tout à fait. Mais le serpent, était-il un dieu du bien ou un dieu du mal? Il y a eu des variantes, hein. Ainsi par exemple...
Si un jour vous arrivez à m'expliquer pourquoi prendre le fruit de l'arbre de la connaissance est devenu un péché, peut-être que j'écouterai.
Eh bien, on va écouter. Soyons attentifs. Je suis prêtre de rite grec-catholique, c'est-à-dire melkite. Bon, religion royale, malek. Bon. Les évêques orthodoxes grecs orthodoxes ou grecs catholiques n'ont pas la crosse, le bâton contourné comme les évêques de rite latin, mais ont le bâton avec en haut deux têtes de serpent. De quoi s'agit-il? Mais tout simplement d'un retour à la Bible. Certes, le pélican qui est sur certaines crosses, est aussi un retour à la Bible, puisque le pélican se frappe à lui-même pour nourrir de sa chair et de son sang ses enfants, ce qui rappelle le Christ, se nourrissant l'humanité. Mais le serpent a été le dieu du mal pour certains, mais du bien pour d'autres. Tenez par exemple, je prends le bâton de Moïse, qui devient un serpent. Bon, le bâton de Moïse, le serpent du bâton de Moïse, vient d'un héritage plus que millénaire et de multiples origines géographiques, asiatiques et orientales, mais aussi africaines, car de nombreuses formes de culte existèrent en Afrique et semble y perdurer actuellement. En réalité, l'épisode de l'Exode eut lieu sous le pharaon Ramsès II, qui régna vers 1290 à 1224, et semble pouvoir être situé vers 1250 avant Jésus-Christ. Moïse fut-il donc, comme le prétendait le prêtre Manéthon, un ancien prêtre d'Héliopolis qui serait revenu au culte juif de ses ancêtres? Fut-il un initié au mystère égyptien? Fut-il resté un crypto-juif en secret à la cour de Ramsès II? Ou, au contraire, resta-t-il ouvertement juif, compte tenu du fait que, contrairement à la légende, une grande part de juifs vivait fort bien en Égypte et même y occupait des postes importants? Toutes ces questions restent ouvertes aux recherches historiques et archéologiques, comme le montrent, par exemple, les excellents travaux modernes d'archéologie d'Israël Finkelstein et de Neil Asher Silberman dans leur ouvrage « La Bible dévoilée, les nouvelles révélations de l'archéologie » aux éditions Bayard, Paris 2002, qui pose au chapitre 2 la question suivante « L'Exode a-t-il eu lieu ?» et conclut qu'il eut lieu, mais dans des conditions très différentes de celles officiellement exposées dans l'Ancien Testament. Et là, c'est l'archéologie qui parle, avec la rigueur scientifique. On n'est plus dans la mystique ou dans le symbolisme. On est dans la rigueur archéologique.
Moi, j'ai entendu que, effectivement, la mer qui s'ouvrait, c'était un symptôme de tsunami à la suite d'un tremblement de terre en Méditerranée.
Mais
l'eau s'est retirée.
Il y a des traditions anciennes qui disent que Jéthro, qui a été pratiquement le beau-père de Moïse, était un prêtre madianite au courant des fluctuations de ce bras de la mer et qui aurait donné à Moïse les clés pour passer au bon moment. Vous voyez, hein? Alors, si nous en revenons à notre réflexion sur le sacerdoce, sa notion, ses sources, ses origines judéo-chrétiennes, n'oublions pas que nous sommes des judéo-chrétiens, hein? Et faisons l'impasse, hein, sur toutes nos haines entre juifs et chrétiens, hein? Alors, nous voyons...
D'ailleurs, si je peux me permettre, on pourrait faire l'impasse sur toutes les haines, hein, au passage.
Absolument toutes. Hein. Nous voyons apparaître la tribu sacerdotale de Lévi. Lévi égale les Lévites. Les Lévites et leur livre, intitulé le Lévitique, qui semble avoir été rédigé soit durant l'exil à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, soit au retour de cet exil, approximativement un peu après 538. Il y a eu en 538 le retour des Juifs en exil en Babylonie, retour qui a été organisé par Cyrus le Grand, roi des Perses, vainqueur des Babyloniens, c'est-à-dire du roi Nabuchodonosor. Le livre du Lévitique a été achevé vraisemblablement au 5e siècle avant Jésus-Christ. Puis, on va trouver le livre des Juges en 1 Samuel et en 2 Samuel roi au chapitre 16, verset 13. Alors, dans tous ces ouvrages, le Nouveau Testament reprenant l'Ancien Testament, nous montre une architecture des premières communautés chrétiennes calquée, littéralement calquée, sur celle de la tradition juive en ce qui concerne le presbytérat et la fonction sacerdotale. Je prends comme modèle les Actes des Apôtres au chapitre 20, versets 17 à 28, ou au chapitre 14, au verset 23, ou bien je prends saint Paul, la première épître aux Corinthiens, en 12, 28, et son épître aux Romains, en 12, 8, et liant le sacerdoce à celui de la loi de Moïse, en saint Matthieu, donc à l'Évangile cette fois-ci, saint Matthieu, au chapitre 5, versets 17 et suivants. Alors, nous pouvons ainsi multiplier à l'infini les références, et pour faire bref, bien, nous ne le ferons pas. Dans les premiers siècles de l'Église, les prêtres formèrent ce que l'on appelle le collège sacerdotal, ou bien le presbytérium, ou encore le sénatus, c'est-à-dire le Sénat. Collège sacerdotal, presbytérium, sénatus, sous ces dénominatifs se trouvaient désignés les prêtres assemblés autour de leurs évêques, comme le prescrivit par exemple saint Augustin d'Hippone, devenu évêque vers 410, et jusqu'à sa mort en 430. Le style de vie qu'il imposa à ses clercs ou prêtres fut quasiment monacal. Ce fut en fait le mode de vie sacerdotal en vigueur dans l'ensemble de l'Église, tant orientale qu'occidentale. Mais, à partir du IVe siècle, l'Église se répand dans tout l'Empire d'Orient et d'Occident, et apparut à ce moment-là l'éclatement des structures originelles trop étroites en une diversité de diocèses locaux ayant chacun leur clergé propre et régis selon des modes adaptés aux conditions locales particulières. Ainsi en Gaule, c'est à partir de la fin du IVe siècle que l'on vit apparaître les provinces ecclésiastiques. La première, la toute première, fut celle d'Aix en Narbonnaise. Elle a été supplantée en 398 par Marseille. C'est l'époque où naissent les paroisses, création qui, du fait de la dispersion de celles-ci, surtout en secteur rural, nécessita un clergé lui-même dispersé. Au début, les prêtres, rassemblés autour de leurs évêques avec les diacres, concélébraient toutes les messes autour de leurs évêques dans chacun de leurs diocèses, encore appelés, les diocèses sont appelés éparchies en Orient. Puis, à l'issue des célébrations, prêtres et diacres se répartissaient en divers points des diocèses pour porter la communion aux fidèles les plus éloignés et revenaient ensuite auprès de leurs évêques. Bon, on voit bien que ça a été très tôt impossible à maintenir et que dès les 5e et 6e siècles apparurent les paroisses ayant à leur tête des prêtres pour les desservir sur place.
Bon, moi je vous ai trouvé une pause musicale, c'est Zaz qui chante, on ira voir le plafond de la chapelle Sixtine, hein, comme quoi.
Ah, voyez, magnifique.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bab au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, oh, oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. vent et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Zaz sur CFM dans l'émission de Bernard Vachereau, Histoire des religions. On a fait pour aborder le sacerdoce, là on est revenu loin en arrière, en Égypte.
Avec la chapelle Sixtine, mais c'est...
Oui.
C'est super en tout cas.
Mais avec vous, on était à moins de 1300, parce que vous dites 2378 pour Amen Office à 1340. Oui. Voilà, on est à avant Jésus-Christ, bien sûr.
Oui, tout à fait. Mais
d'ailleurs, Moïse...
Il est important de voir... de ne pas oublier nos racines judéo-chrétiennes, et je vais dire aussi, les judéo-islamiques. Hein, parce que, qu'on le veuille ou non, l'histoire des trois monothéismes est liée. Hein, et ça, on peut pas le nier, c'est indéniable. Hein, bon. Alors, on pourra en revenir aux prêtres, hein, souvent et aux paroisses. Souvent, ce furent des moines prêtres des différents monastères qui furent chargés de ce genre d'activité pastorale, desservir des paroisses, menant ainsi, bien malgré eux souvent, la plupart du temps, deux modes de vie. L'une monacale à l'abbaye et l'autre paroissiale parmi les paysans, beaucoup plus rarement parmi les citadins. Ce qui fit d'ailleurs que l'on eut parfois des églises à deux nefs, la nef des moines et la nef du peuple. Hein. C'est ainsi. Alors, ben, y en a une témoin, par exemple, beaucoup plus tardive, des 14e et 15e siècles, voire même 16e, à Verdun-sur-Garonne, ici en Tarn-et-Garonne. Hein. Voilà. Alors, parallèlement à cela, apparut un clergé rural et aussi urbain, composé de prêtres et de diacres du clergé, que l'on a appelé séculier. Séculier, c'est-à-dire séculum, autrement dit, du temps. Hein, voilà, du temps présent. Par opposition au clergé régulier, des monastères et des communautés religieuses, ordres ou instituts religieux, qui desservirent les nouvelles paroisses rurales et urbaines. Alors, dès lors, l'institution sacerdotale prit de nouvelles formes, ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'on change de formalité. Alors, désormais, l'organisation de la pastorale rurale et urbaine connaît un nouvel essor qui révolutionna complètement les structures ecclésiales de l'église mérovingienne et carolingienne, surtout, entre les 7e et 10e siècles. Parce que le clergé séculier prend proportionnellement de plus en plus d'importance dans les milieux ruraux et urbains. C'est lui qui va commencer par toucher le peuple, par exemple en milieu rural, de plus en plus fortement. Presque, on va dire, en concurrence avec les monastères. Hein. Voilà. Alors, d'où de fréquents conflits, d'ailleurs, entre le clergé séculier et le clergé régulier. Pourtant, l'influence des monastères et du monachisme ne cessera pas d'être prépondérante sur le clergé séculier, car de nombreux papes furent d'anciens moines. Il en fut de même pour les évêques. D'ailleurs, chez nous, là je dis ça, en tant que prêtre de rite grec, eh bien, la plupart des évêques sont choisis parmi les moines ou les religieux. Quant aux prêtres séculiers, ils furent souvent formés au sein des monastères par les moines eux-mêmes. Ceci fit que tout au long de l'histoire de l'Église, le monachisme exerça une influence parfois plus ou moins visible, mais toujours réelle et profonde, sur le clergé et la notion même de sacerdoce. Donc, si l'on s'en tient strictement aux religions juives et chrétiennes, on s'aperçoit, du fait du profond enracinement de la notion de sacerdoce dans les époques les plus reculées de l'histoire biblique de l'Ancien Testament et de la rédaction de ses écrits s'échelonnant entre le VIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais, comprenant des éléments encore beaucoup plus anciens, remontant au Xe siècle avant Jésus-Christ, et même de provenance des plus diverses entre le bassin méditerranéen du Proche-Orient et l'Asie profonde jusqu'à la Chine, comme le prouvent certaines recherches archéologiques et historiques actuelles. Que des influences originelles venues de ces contrées et marquées la notion du sacerdoce dans le judaïsme ancien, puis dans le christianisme des origines, qui se serait poursuivi dans le concept encore actuel du sacerdoce dans le christianisme contemporain, n'a rien d'impossible. Cet enracinement s'est prolongé dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons vu ici plus haut, non sans avoir subi des influences grecques et romaines du fait des missions de Saint Paul. Surtout, ces missions se situent entre 49 et 52 après Jésus-Christ, ainsi que des influences de culture hellénistique sur le judaïsme dès les conquêtes d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, dès 325 avant Jésus-Christ.
On va devoir reprendre la semaine prochaine la suite.
À bientôt, mon ami.
À mardi prochain, Bernard.
Bye-bye.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.